DJ à Montréal, vous écoutez Lesbosson avec Nathalie Dipalma sur les ondes de CKUT 96.3 FM.
Bonsoir, notre invitée Catherine Piché a été une des premières femmes DJ à Montréal. Elle a été copropriétaire du très populaire bar Le Kiev avec Linda Bolduc et sa mère, Lucie Boivin, et DJ dans plusieurs bars connus dans les années 80-90. Elle a aussi travaillé au Collège de Montréal où elle s'occupait entre autres de la radio étudiante. Elle a signé plusieurs articles dans le journal étudiant du collège et elle a écrit pour le magazine Gazelle, la version féminine du magazine Fugue dans le temps. Ce sera un plaisir de passer l'heure avec elle et ça vous rappellera sans doute des souvenirs pour certaines, car elle a choisi toute la musique que nous allons écouter ce soir. Je vous en donne un aperçu tout de suite. Bonsoir Catherine Piché, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir, merci à toi Nathalie de m'inviter. Ça me fait bien plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
D'abord, pour être une bonne DJ, il faut aimer la musique. Et d'où te vient ta passion pour la musique?
Je me suis posé la question parce que je pense que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. C'est la musique. Et là, depuis mon enfance, j'ai appris la musique. Mes frères et sœurs aussi, mon père c'est un musicien. Un peintre. Puis là, je me disais, comment ça se fait que j'ai accroché à la musique comme ça? C'est l'intérêt précis pour la musique, ça vient de mon frère Daniel, mon frère aîné. Lui, c'est un maniaque de musique. Puis dans ce temps-là, ben c'était le début des années 70. Là. Moi, j'étais pas vieille, là, 7 ans, 8 ans, parce que lui, il est parti de la maison, j'avais 9 ans. Okay. À ce moment-là, lui, il avait un gros coffre dans sa chambre. Puis il mettait ses vinyles dans son un vieux coffre là avec des barres de métal. Là. Puis on ouvrait ça, là, puis lui, c'était comme toute une cérémonie. Là, il montrait ses disques, puis les Rolling Stones, les Beatles, les Who, les Doors. J'ai tout connu cette musique-là, puis j'ai accroché sur les pochettes de disques. J'ai un souvenir précis des pochettes de disques à ce moment-là. Puis lui, c'est un passionné, puis c'est vraiment lui qui m'a donné la passion de la musique. Parce qu'après ça, j'ai toujours continué à écouter de la musique, à acheter de la musique, puis... C'est vraiment comme ça. Puis elle est toujours restée là, la passion. Puis je me suis rendu compte que c'est grâce à lui. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question pourquoi. Puis c'est vraiment à lui là, qui m'a donné ce goût-là de la musique.
Et toi, tu jouais quel instrument quand tu étais jeune?
J'ai appris le piano longtemps, là, une dizaine d'années. J'ai joué du saxophone, la flûte traversière. Fait que c'est ça, c'est de mon père, parce que mon père il jouait du violon, de la guitare, de la clarinette. Fait que la musique a toujours été là, de toutes ses formes, tu sais.
Oui, puis les pochettes de disques, c'est quelque chose qu'on connaît moins aujourd'hui, mais il y avait quelque chose de magique d'avoir un vinyle dans ses mains aussi.
Ah oui, les pochettes de disques, je les connais par cœur. Puis c'est là que j'ai commencé à lire les pochettes. Qui a produit, c'est qui les musiciens, c'est qui les choristes. Puis c'est comme ça que, bon, un autre groupe, je me dis, ah tiens, même producteur qu'un tel autre groupe. Puis ah, le musicien qui avait joué avec. Fait que ça, je suis tout ça par cœur. Puis mes amis sont bien impressionnés de ça, mais c'est là. Je me suis rendu compte que c'est en lisant les pochettes des fin 60, début 70, les vieux Pink Floyd, Animals. J'étais fascinée par les pochettes. Puis quand les CD sont arrivés, je me disais, mon Dieu, que ça réduit l'espace de... T'sais, puis aujourd'hui, je trouve ça de valeur parce que c'est tout numérisé. Puis on peut pas lire qui a fait quoi, qui a travaillé avec qui. Ça, je trouve ça dommage aujourd'hui.
C'est vrai. Puis déjà, c'était une passion pour toi. Tout ce qui englobait le CD, en fait, c'était déjà une passion avant même que tu deviennes DJ.
Ah oui, oui, oui. Moi, c'était des vinyles, là. Les CD sont arrivés début 90, là, quand j'avais le Kiev. Là, il fallait que j'achète quelques CD parce que ça se faisait juste en CD.
Ouais.
Puis, ouais. Entre autres, 1990 de Jean Leloup. Puis, ça, c'était, je l'ai joué beaucoup, beaucoup, cette chanson-là. Fait que c'était juste en CD. La transition commençait déjà. Mais le retour du vinyle, je suis très contente.
Oui.
Mais moi, j'ai jamais aimé les CD. Puis, j'ai toujours gardé mes vinyles. J'ai toujours continué à en acheter. Puis, le retour du vinyle, je suis très, très, très contente.
C'est vrai, il y a de plus en plus d'artistes qui font aussi les vinyles.
Oui, ils recommencent à sortir leurs choses en vinyle. Ouais, ouais.
Puis t'es vraiment une pionnière dans le domaine. Être DJ, c'était vraiment pas une profession populaire pour les femmes dans les années 80. Qu'est-ce qui t'a motivé à persévérer pour entrer dans l'univers sacré des DJ masculins?
C'est la passion de la nouvelle musique. C'était la musique, mais c'était surtout la nouvelle musique, la nouveauté. Pour ça, j'ai voulu persévérer parce que je voulais faire connaître la musique. Il n'y avait rien pour me décourager, même pas l'attitude de certains DJ masculins ou l'espèce de sexisme qu'il y avait autour de ça. Il n'y avait rien pour me décourager. Voyant mes choix musicaux, puis j'avais confiance que j'allais peut-être changer les goûts musicaux des gens. C'est à ce moment-là, pas d'Internet, pas de réseaux sociaux. La musique, tu l'écoutais soit à la radio ou soit quand tu allais dans des bars. Et là, je me disais, ben la radio, si tu veux l'entendre, ouvre la radio. Les bars, ben quand tu vas dans des bars, peut-être ça serait le fun d'entendre d'autres choses que ce qui joue à la radio, puis promouvoir la nouvelle musique. C'était vraiment une obsession. C'est ça qui m'a motivé à persévérer, ouais, de faire découvrir la nouvelle musique.
C'est ça, tu avais déjà une vision de ce que tu voulais jouer.
Oui, oui. Moi, je savais déjà que je voulais pas jouer du populaire, du commercial, puis je voulais faire découvrir la musique d'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie. Je jouais pas beaucoup de choses des États-Unis. Je jouais des choses de New York, mais en pourcentage, j'étais vraiment branchée sur la nouveauté outre-mer.
Et ça a commencé comment pour toi, le métier de DJ?
Ça a commencé, j'avais 18 ans, je restais en appartement avec des amis, puis il y avait une amie qui restait avec moi, Judith Vienneau, qui travaillait au Foufoune, elle étudiait en cinéma, comme moi, moi aussi j'étudiais en cinéma, puis elle travaillait au Foufoune, puis j'y allais, au Foufoune électrique, comme cliente, puis à un moment donné, elle me dit, oh, il cherche quelqu'un, il voudrait faire des 5 à 7 avec la musique autre que ce qu'ils jouent le soir. Fait que j'étais allée les rencontrer, ils m'avaient engagée. Fait que c'est ça, je faisais comme des 5 à 7.
Donc c'est eux qui t'ont donné ta première chance.
Ils m'ont donné ma première chance, mais ils me l'ont enlevé assez vite parce qu'à un moment donné, ils trouvaient que c'était pas à leur goût. Puis ils m'avaient proposé justement une job de serveuse. Fait que moi, c'était pas ça que je voulais. Fait que j'étais partie. C'est un an plus tard que j'ai eu vraiment ma vraie chance.
Okay.
Au kilomètre heure sur Saint-Denis.
Et est-ce que tu te souviens, vous étiez combien de femmes à pratiquer ce métier-là à ce moment-là?
On n'était pas beaucoup. Moi, j'ai eu connaissance qu'il y avait une fille qui était DJ obélitiste, mais au départ, il y a eu des garçons comme DJ obélitiste. À un moment donné, il y a eu une fille qui a été là assez longtemps, puis malheureusement, là, je ne me rappelle pas son nom. C'est ça, souvenir, à part moi, non, il n'y en avait pas vraiment. Puis moi, c'est parce que ça a duré longtemps. J'ai fait ça une quinzaine d'années, finalement. Mais non, j'en connaissais pas vraiment pour dire, à part celle qui était obélitiste. J'y allais, je sortais là, j'écoutais ce qu'elle faisait. Intéressant. Mais non, pas plus que ça, non. Puis même quand j'avais mon bar, j'ai jamais de fille qui est venue me voir pour me demander une job comme DJ. Jamais, jamais.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Puis ça, ça me désole parce que c'est certain que s'il y avait une fille qui était venue pour appliquer comme DJ, c'est même que je l'aurais aidée, puis tout. Puis... Mais non, même pas.
Les filles pensaient même pas à faire ce métier-là, dans le fond.
Mais non, ils pensaient même pas. Ça leur traversait même pas l'esprit de faire ce métier-là. Tellement que c'était chasse gardée. Ouais, non, comme tu dis, ça leur passait même pas dans la tête, non.
Puis même à la radio étudiante, c'était un emploi fermé d'avance pour les femmes. C'était comme ça, même dans les bars gays pour femmes, comme tu dis, mais on préférait même parfois mettre des cassettes plutôt qu'engager une femme DJ. Ça, c'est incroyable.
Ouais, c'est assez incroyable, ouais. Oui, puis moi, quand j'allais dans ces bars-là, puis je voyais que c'était des cassettes, j'étais sans connaissance.
C'est clair.
Mais c'est comme si c'était pas trop important, la musique. Je me suis rendu compte de ça. C'était comme une ambiance lointaine, sonore, là. Il aimait mieux jaser, puis là, je me suis dit, il faut donner le goût à la musique pour faire connaître. Ça n'a pas de bon sens.
C'est vrai que dans ce temps-là, les bars étaient beaucoup un lieu de rassemblement, là. Il n'y avait pas d'application pour se rencontrer. C'était vraiment important, les bars lesbiens, ou surtout à ce moment-là.
Ben, c'est ça, ouais. On sentait que les filles voulaient plus jaser que danser ou écouter de la grosse musique forte. Mais là, je me disais, oui, c'est important de jaser, mais il faut que les filles aient aussi le choix et l'option d'avoir une belle place aussi, là, tu sais.
C'est quoi ton expérience avec la radio étudiante? Parce que tu en as fait beaucoup.
Oui, j'en ai fait beaucoup, de la radio étudiante, de la radio communautaire. Après mes années de DJ, à un moment donné, ce qui m'a fait ralentir, c'est que j'en pouvais plus travailler la nuit. Puis à un moment donné, j'ai eu un emploi au Collège de Montréal. Puis il n'y avait pas de radio étudiante. Puis j'ai demandé à la direction si on pouvait avoir une radio étudiante. Peut-être qu'il y en avait eu avant, là, mais quand j'étais là, il n'y en avait pas. Fait que j'ai fondé la radio étudiante au Collège de Montréal. Puis il y avait une belle revue étudiante, un beau journal étudiant. On avait une chronique radio étudiante dans le journal. Puis j'incitais les jeunes à écrire des chroniques, puis à écrire sur la radio, puis sur la musique. Puis je leur disais, faites des chroniques, des critiques, puis des chroniques de spectacle. Puis je les incitais à écrire. Puis quand j'avais pas d'article pour publier, ben là, moi, j'en écrivais une. T'sais. Encore là, c'est drôle, parce que le Collège de Montréal, c'était pour garçons seulement. Fait que je pouvais même pas aider une jeune fille à faire de la radio. C'était juste des gars qui avaient là. C'était drôle, c'était comme si j'avais tout le temps les jambes barrées pour essayer d'aider les filles à étudier. La radio étudiante, moi, j'en ai faite au secondaire, au cégep. J'étais au cégep de l'Assomption, au cégep antique. Puis plus tard, j'ai fait de la radio communautaire à CIBL. Il y avait un producteur d'une émission à CIBL, une émission culturelle qui était client au Kiklum. Lui, il venait en début de soirée, puis il écoutait mes débuts de soirée. Puis ça, j'ai souvent eu des critiques sur mes débuts de soirée, que, mon Dieu, il y a du monde qui venait écouter juste mes débuts de soirée parce que je faisais beaucoup de recherches musicales aussi pour les débuts de soirée. Il est venu me voir, puis il m'avait dit, j'ai une émission culturelle à CIBL, Connexion, puis je me cherche quelqu'un pour faire la mise en onde, puis faire la recherche musicale. Ça te tenterait-tu? Fait que j'ai dit oui. On s'est rencontrés avec son animatrice. Il m'avait demandé de trouver un petit thème musical, puis c'est moi qui faisais toute la recherche musicale. J'ai fait ça pendant un an, puis j'avais beaucoup aimé ça. Fait que la radio, ça a tout le temps été un peu là, tu sais, au présent, oui.
Est-ce que c'était toujours par rapport à la musique, ce que tu faisais à la radio?
Oui, parce que justement, l'émission que j'ai faite à CIBL, moi, je garde tout, hein. J'ai retrouvé, je savais que j'avais enregistré des émissions de connexion, puis j'ai retrouvé la cassette, puis j'ai réécouté ça, puis je me disais, tabarouette, je mettais des chansons, je me disais, ils vont les aimer, tu sais. Ouais. C'était la même recherche musicale à la radio que je faisais dans les bars, là, promouvoir la nouvelle musique, faire connaître des nouvelles musiques, ouais.
On va justement aller en musique avec une chanson que tu as choisie. Est-ce que tu veux nous la présenter?
Oui. Premièrement, les chansons que j'ai choisies, c'est toutes des chansons qui ont joué au Kiev. Que les fans du Kiev, peut-être qu'ils vont reconnaître les chansons. J'ai essayé de prendre des chansons qui avaient vraiment marché et qui avaient frappé le son du Kiev. La première chanson qu'on va entendre, c'est « Nomade ». Le titre, c'est « I Wanna Give You Devotion ».
Oui.
Puis c'est anglais, 1990. Ça a été un des premiers gros hits au Kiev.
On l'écoute.
I wanna give you devotion. I wanna give you devotion. We'll be right back.
when you know that you're MC. M-I-K-double-E. Taking it down on Mikey. M-I-K-double-E. We gotta take it down and take it down and take it down, Mikey. Take it down and take it down and take it down, Mikey. Take it down and take it down and take it down, Mikey. Down, Mikey. Down and take it down and take it down, Mikey.
Nous sommes de retour avec Catherine Piché, qui a été DJ dans plusieurs bars dans les années 80 et 90. Comme je le mentionnais dans ma présentation, tu as écrit plusieurs articles, des critiques musicales et aussi une lettre ouverte dans le journal Le Devoir qui a été publiée et qui avait pour titre « Disc jockey, un métier qui persiste au sexisme ». Ça se traduisait comment le sexisme dans ce milieu-là?
Moi, le moment où je ressentais vraiment que je n'étais pas à ma place, ou qu'on me faisait sentir que je n'étais pas à ma place, ça, c'est quand j'allais acheter des disques.
Okay.
J'allais acheter des disques, il y avait des magasins spécialisés, justement pour les DJ. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait des pochettes. Là, on se faisait des piles, puis là, ils nous faisaient écouter ce qu'on voulait écouter. Évidemment, c'était tous des gars qui étaient là. Puis je te dis, ils me regardaient tellement de travers. Je pense qu'ils devaient penser que j'étais la blonde d'un des gars qui était là. C'était ma seule fonction pour être là, tu sais. Puis là, je qu'est-ce que je fais là, à la chute des disques. Elle pense qu'elle connaît la musique. Ça, je l'ai vraiment senti, là, ce qu'elle fait là, tu sais. Mais finalement, moi, pas revendicatrice, là, je suis restée calme et puis je me suis dit, je vais leur prouver, tu sais, que j'ai ma place et que je sais reconnaître que ça va être un hit puis que je tiens à mes goûts musicaux. Puis au fil des semaines, parce que on y va toutes les semaines acheter des disques. Tout le temps, les mêmes sont là. Puis au fil des semaines, ben, ils se rendaient compte que ce que j'avais acheté il y a 2-3 semaines, 1 mois, ben, oups, là, mon Dieu, moi, je pensais jamais que ça marcherait, cette chanson-là. Comment ça se fait que ça marche?
Ouais.
Puis là, c'était rendu qu'ils regardaient ce que j'achetais.
Okay.
Au début, ils me regardaient de travers. Puis là, ils s'intéressaient à ce que j'achetais parce qu'ils se rendaient bien compte que, oh, elle a comme un petit don, là, elle, à reconnaître qu'est-ce qui va marcher, tu sais. Puis là, ben, j'essayais d'y aller dans les heures qu'il y a moins de monde parce que je voulais pas. Moi, je me suis dit, ils ont tellement été pas fins avec moi, pas gentils, porte-vent, pas pour commencer à leur donner mes scoops. Puis moi, je faisais beaucoup de recherches, puis je me disais, je leur donnerais pas ça gratuitement, là. Moi, je faisais ma petite pile, puis je leur donnais un petit peu secret, là, à la fin, là, tu sais. Ça, je l'ai senti, puis je l'ai senti comme j'ai dit tantôt au foufou électrique quand ils m'ont dit, ben là, pourquoi tu t'en vas pas serveux?
Ouais, ça, c'est quand même.
Oui, ça, bien plate. Bien plate. Oui. Mais par contre, tu sais, les magasins de disques, à un moment donné, j'en ai trouvé un magasin de disques qui s'appelait Tabou Disque, qui a marché longtemps. Puis le propriétaire, Bill Warrell, lui, il l'a vu que j'avais un don. Puis il a toujours été très gentil avec moi. Puis il venait même me porter des nouveautés qu'il recevait. Mettons que je passais dans l'après-midi, il recevait quelque chose, puis il savait que j'étais au kilomètre heure. Il venait me porter, pendant la soirée, il venait me porter des nouveautés. Ah, oh, regarde, j'ai reçu un remix de Depeche Mode très rare. Je te l'apporte, j'ai eu 2 copies.
T'as su faire ta place, puis gagner le respect.
La confiance, puis ouais, puis le respect. Oui. Ça a changé au fil des années, oui.
Comme tu disais, tu n'étais pas le genre de DJ à jouer de la musique du top 40. De quelle façon tu choisissais ta musique?
Évidemment, dans ce temps-là, tu n'avais pas d'Internet et tu ne pouvais pas te mettre à écouter toutes les radios du monde. Là.
C'est ça.
C'était vraiment par la lecture, par des revues de musique. Je lisais vraiment tout ce qu'il y avait de revues de musique en français, en anglais, des États-Unis, de la France. Je lisais tout. Puis là, j'avais des titres dans la tête. Puis j'essayais de les trouver. Puis,
c'est beaucoup de travail quand même.
Ben, c'est beaucoup de travail parce que les gens, ils pensent peut-être que tu commences à travailler à 9h le soir quand tu commences ton stop de DJ, mais je passais des grandes journées dans le magasin de disques, puis dans le magasin de revues, puis acheter des revues de musique. Puis j'ai acheté beaucoup de disques à New York. On y allait vraiment dans le temps du Kiev, là. On achetait beaucoup de disques à New York.
Qui n'étaient pas disponibles ici?
Non, qui n'étaient pas disponibles ici. Fait que j'allais faire le plein de disques à New York. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons du Kiev qui n'ont jamais joué ailleurs. Puis c'était vraiment beaucoup de lecture puis beaucoup de recherche.
C'est beaucoup parce que j'ai lu quelque part dans les articles que tu m'as envoyé qu'une DJ s'était payée 15$ à ce moment-là. Mais le 15$, c'est pendant le temps que tu es là à mettre la musique. Ton temps que tu mettais en dehors de ces heures-là n'était pas vraiment payé en plus?
Oh non, pas du tout. Puis c'était difficile à comprendre pour certaines personnes. Mm-hmm. Il y en a qui pensent que, bon, t'arrives, puis tu mènes n'importe quoi. Puis,
ouais, c'est ça.
Hey, c'est pas ça, là. Écoute, construire une soirée de musique, là, c'est un recommencement tous les soirs. C'est comme un casse-tête que tu recommences à tous les soirs. Tu peux pas faire exactement comme la veille. C'est pas le même monde, c'est pas le même feeling, c'est pas le même. Les gens sont peut-être moins de bonne humeur ce soir-là. C'est un recommencement à chaque fois, c'est un casse-tête. Faut que tu saches lire ta clientèle aussi. Ah, ce soir, sont plus house. Bon, ben, oh. Puis ce soir, sont plus alternatifs. Tu sais, faut le sentir.
Tu t'adaptais sur le champ à la clientèle qui était dans le bar?
Ah oui, je m'adaptais sur le champ parce que moi, il n'était pas question qu'il y ait une piste de danse vide, là. 10 personnes, sa piste de danse, là. Non, 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 ça marche pas, là.
Donc, tes sets n'étaient pas déjà faits, t'arrivais là, mais s'ils étaient faits, tu changeais ça par rapport à la clientèle.
Oui, parce que moi, il fallait que la piste de danse soit pleine. Ah non, j'étais là pour faire danser les gens, puis.
Et ça, c'est un don quand même?
Bien, souvent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais un don. Moi, la clientèle, il fallait qu'ils s'ouvrent les oreilles aussi, là, parce que je voulais leur montrer des nouvelles chansons, mais je savais lire ma clientèle, ouais.
Tantôt, tu disais que c'est le bar Kilomètre Heure qui t'a donné ta première chance. C'était en quelle année?
Kilomètre Heure, ça, c'était en 1983. J'avais 19 ans. Je revenais de... J'étais partie travailler pendant l'été aux États-Unis, à Provincetown. Quand on est revenu de Provincetown, j'avais comme manqué l'inscription pour l'université, parce que j'allais à l'université. Puis là, je savais plus trop me lancer. Puis l'expérience que j'avais eue au Fofoun, ça m'avait bien déçu. Puis là, on voit une annonce du bar Kilomètre Heure sur Saint-Denis. Puis je cherchais un DJ. Mais eux autres, ils n'avaient jamais pas avoir une fille. Ah, mon Dieu, ils veulent une fille. Tu vois ça, le Kilomètre Heure, c'est un bar hétéro. Mais t'as, bien, la première bar qui m'a donné ma vraie chance, puis que ça a bien marché, c'est un bar hétéro. C'est drôle, hein? Là, je m'en vais les rencontrer, puis là, ils me disent, je pense un peu avec eux autres. Ils me disent, OK, samedi, tu vas avoir une audition, t'arrives, on va te donner les tables à minuit. Fait que tu vas faire ton audition de minuit à 1 heure. OK. Là, je m'en retourne chez nous. Moi, je dis, ben beau, là, j'aimais la musique, puis tout ça, mais mixé, puis tu, j'étais pas, j'avais jamais vraiment, tu sais. Fait que, puis là, je me dis, en plein, en soirée, le bar va être plein, ben, ça marchait, ce place-là. J'arrive chez nous, puis là, je compte ça à ma blonde du moment, Linda. Ben, Linda, j'en ai dit, non, mais mon Dieu, à minuit, en plein milieu. Fait que là, elle dit, on va louer des tables tournantes, puis un mixeur, puis tu vas te pratiquer, puis tu vas voir, ça va bien aller. Fait qu'on fait ça, puis là, je me pratique à mixer, puis là, je sais pas mal les chansons que je veux mettre, tu sais. Puis... Mais là, genre la veille, où là, je voulais plus y aller. Là, la chienne m'a pognée. Ah, j'ai dit non, ouais, je serais jamais capable. Parce que moi, je suis quand même une personne réservée et timide, là.
Ouais.
C'est sûr que j'avais mes convictions musicales, mais là, j'étais comme trop, je me sens, en plein milieu de la soirée, comment je vais faire ça?
Puis t'as une heure pour prouver ton talent.
J'ai une heure pour prouver mon talent. Fait que là, Linda, elle me dit, oh non, 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 elle dit, tu vas y aller, t'as pas fait ça pour rien, tu t'es pas pratiqué pour rien, c'est ta chance, ils veulent une fille, je sais que t'es capable. C'est quelque chose, mais si Linda n'avait pas été là, je pense que j'aurais jamais été DJ. Elle m'a tellement encouragée, là, puis elle m'a dit, t'es capable, vas-y. Et finalement, je suis allée.
Oui.
J'arrive là, le bar est plein, ça danse, l'ambiance est là. Bon, allô, allô, OK, là, il y a un DJ qui est là, là.
Oui, oui. Gars,
évidemment. Fait qu'il me cède sa place, tu sais. Je vois dans sa face, ça fait pas son affaire. Mais là, à 1 heure, là, le propriétaire vient me voir dans la cabine, puis il me dit, tu finis la soirée, ça va super bien, c'est le fun, les gens aiment ça, les gens aiment ta musique.
Wow.
Fait que j'ai fini la soirée, puis l'autre DJ a fini assis au bar, puis t'es pas content. Mais qu'est-ce que tu veux, tu sais, ils m'ont engagé sur le champ, et que ça a été fulgurant, puis ça a bien été, ça a toujours bien été, j'ai toujours mis ce que je voulais, puis ça a toujours bien marché, puis là, ça marchait. C'est eux qui m'ont donné ma première chance, vraiment, moi, un bar hétéro.
C'est quand même ironique. Est-ce que ça arrivait qu'il y avait des endroits où ils te demandaient le style de musique ou tu pouvais tout le temps pas mal jouer ce que tu voulais?
Je m'arrangeais pas mal pour mettre ce que je voulais.
Okay.
C'est sûr que je diluais un peu avec ce qui était comme le kilomètre heure. Mais le kilomètre heure, je repense à ça, c'était du new wave qu'on mettait, là, de Smith, Dépêche Mode, Brunsky Beat. C'était du new wave. Vraiment, oui. Je voulais pas mal ce que je voulais, oui.
Et quels sont les bars qui ont sévi? À quel moment as-tu décidé d'ouvrir ton propre bar?
Bien, après le kilomètre heure, j'étais là quand même un petit bout, là, presque 2 ans. Mais moi, mon but, là, voulait travailler au beat. Le beat, ça, c'est un... Moi, dans mon esprit, c'est un bar culte, là. C'était sur Sainte-Catherine, dans l'Ouest, dans le bout de Metcalfe.
OK.
Puis c'était seulement de la musique de New York, le début du rap. Mais le bon rap, là. Puis eux aussi, ils allaient acheter leur musique à New York. j'étais cliente là. Puis moi, je me disais, faut que je travaille ici. C'était vraiment la musique. Eux autres, ils en faisaient beaucoup de recherches musicales. Puis ça jouait pas ailleurs que ce qu'ils jouaient au B. Puis je voulais aller travailler là, mais c'était pas faisable. Là. C'était super. Les DJ, il n'y a pas personne qui pouvait aller travailler là. C'était la messe. Hein.
OK. Puis c'était un bar hétéro?
Le beat, non. C'était mélangé. C'était plutôt gogué, mais les filles y allaient. Il y avait des hétéros. C'était mélangé. T'sais.
OK.
C'était Pierre Vien qui était gérant, là. Puis là, j'avais un DJ qui travaillait avec moi au kilomètre heure, pas celui qui était resté assis là, le restant de la soirée, un autre. Puis lui aussi, il voulait travailler au beat. Puis je vais le nommer, là, Richard Labelle. Lui, ça a été un DJ qui m'a tellement aidé. Il s'assoyait pendant mes soirées, là, puis il m'écoutait toute la soirée. Là, puis là, il venait me voir. Il me dit, ah, là, ça, c'était bon. Ah, là, ici, t'aurais pas dû mettre cette chanson-là. Il m'a vraiment aidé. Puis à un moment donné, ben, il a commencé à travailler au beat. Puis il m'a dit, tu vas voir, je vais t'en avoir une audition au beat.
Wow.
Puis effectivement, j'ai eu l'audition au beat. Puis ça a été à peu près comme au kilomètre heure. Puis elle vient, il me dit, bon, ben viens, c'est un lundi soir. Mais dans ce temps-là, les bars, ça marchait ce soir. Un lundi soir, même principe, tu vas embarquer à minuit, puis tu prends un petit bout de soirée. Ça a fini comme ça. Encore le DJ qui restait assis au bar jusqu'à la fin. Puis j'ai fait la soirée. Puis des rappels, puis ça finissait plus. Puis là, puis elle vient, elle dit, bon, on va allumer les lumières, là, parce que ça finissait plus. Puis là, ça applaudissait encore. Puis là, il rentre dans la cabine. Il dit, ben là, je sors de la cabine, là, parce que je pense que tant que tu vas être là, ils vont vouloir que tu continues, là. Fait que, non, le beat, j'ai vraiment des très, très beaux souvenirs du beat. Puis finalement, ben le beat a fermé parce que le business a ouvert, puis tout le monde s'est garoché là. C'est le même propriétaire que le beat qui a ouvert le Key Club. Michel Gadouri, puis ça, c'était sur Saint-Denis. Ça a marché, le Key Club, vraiment beaucoup. Ça marchait ce soir aussi. Puis tu vois, c'est mon amie Linda qui a été gérante, là, au Key Club. C'est comme si on s'était pratiqué pour le Kiev plus tard, sans le savoir, là. On s'occupait de tout, la promotion, les parties, qu'est-ce qu'on faisait comme événement. À un moment donné, on a décidé de mettre des chiens gays le mardi. On avait fait installer un écran géant, puis la façon que le bar était fait, il y avait comme une mezzanine qui faisait que c'était propice à regarder des films. Fait que des films gays le mardi, puis là, à la fin du film, ça demandait une petite heure, ça s'en allait. Puis c'était... Fait que c'est ça, on s'en est parlé d'une depuis moi, puis on s'est dit, c'est comme si on s'était pratiqué pour comment avoir un bar, tu sais. Puis après le Key Club, ça a marché vraiment beaucoup, le Key Club, il y avait une terrasse, ça plaît tout le temps.
Donc, tu as été DJ là aussi?
Oui, au Key Club, oui. Oui, puis là, le propriétaire du Key Club a vendu ses parts, puis j'étais en allé ouvrir la sécurité maximum.
OK.
Amherst. Puis là, ben, ça a comme, on est comme toutes parties un après l'autre. Puis là, à ce moment-là, j'ai été comme une année sans être DJ. J'ai travaillé en décoration, j'ai travaillé étalagiste, puis à un moment donné, je reçois un coup de téléphone chez nous, c'est le Standing qui ouvrait.
Wow.
Standing ouvrait, puis on aimerait ça que tu sois DJ. Fait que je m'en vais rencontrer Lucie Duguay, la gérante du Standing.
Oui.
On va rencontrer Lucie, puis on jase. Puis là, à ce moment-là, j'en passais plus.
Il t'engageait tout de suite?
Engagé tout de suite. Puis le Standing, ça a été un bon moment aussi, parce que ça a beaucoup marché, le Standing. Puis beaucoup de gros line-up. Puis du monde jusqu'à la fin de la soirée, ça a été une belle place, le Standing. Là, à un moment donné, ben je me dis, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour partir mon bar. Puis là, ben Linda, elle m'encourageait. Ben, je pense qu'on serait capable si on ouvrait notre propre bar. Puis elle s'était pratiquée au Key Club comme gérante, puis les horaires, puis engager du monde, puis tout ça. Puis, elle dit, je te le dis, on est capable, on devrait partir notre bar. Puis c'est comme ça que là, moi, je suis partie du Standing.
Vous avez ouvert le Kiev.
On a ouvert le Kiev, puis on a ouvert ça assez vite, là. On s'est donné un temps assez restreint, puis on a eu raison, parce que ça a marché beaucoup, beaucoup.
Oh, on en entend encore parler. Les filles ont beaucoup de souvenirs du Kiev.
Oui. Puis après le Kiev, j'ai fait d'autres places, là, le Factory, le Jackpot, le Dietrich. Puis je faisais des soirées aussi à droite à gauche, de toutes sortes de choses. Et ça a été pas mal ça, mon parcours dans les bars.
Mais si on revient au Kiev, tu dis que vous avez ouvert ça vite et puis vous avez tout fait vous-même, votre équipe, et c'était beaucoup d'investissement. C'était quoi votre motivation d'ouvrir un bar?
Nous autres, notre motivation, c'était d'offrir un beau lieu aux femmes. Parce que on trouvait qu'il y avait beaucoup de bars sous-sol, pas beaucoup d'éclairage, des petits raccoins. On s'est dit, les femmes ont jamais vraiment eu un beau bar avec des beaux éclairages, des beaux décors, la belle publicité, pas un sous-sol, pas, tu sais,
ouais.
C'était ça notre motivation, parce qu'il n'avait pas vraiment eu, c'était pas comme ça les bars de filles. On sentait que c'était comme pas important. Donc, tu vois dans les bars de gars, puis tu vois, waouh, les systèmes de son, le son, l'éclairage. T'arrivais dans les bars de filles, c'est comme... Fait que c'est vraiment ça qui nous a motivés à offrir quelque chose, la bonne musique innovante, puis on était vraiment impliqués. Quatre décors en 2 ans. Ça a duré plus que 2 ans. De Kiev, là, on changeait de décor aux 6 mois. On faisait des parties, on n'arrêtait pas. Les parties de Pâques, à un moment donné, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire de spécial? Là, on cogite là-dessus, puis tout d'un coup, on se dit, ah, on va mettre une fille sur la croix. C'est la fille qui a dit oui pour aller sur la croix, c'est Nathalie Claude. Fait qu'elle s'est mis un petit kit de Jésus-fille, puis sur la croix, sur la piste de danse.
Hey, j'espère que vous avez des photos de ça.
On va falloir me demander à José.
C'est José B qui prenait les photos.
Ben oui, parce que José, c'est la copine à Linda. Puis José a un talent exceptionnel en photographie. Oui. Puis elle avait toujours son contact avec elle. Puis quand on faisait des parties, oui, elle prenait des photos. Puis José, elle avait un grand, grand, grand talent en aménagement et en construction. Puis elle a vraiment participé à la construction, à l'installation du bar, puis quand on changeait de décor aussi, elle était toujours impliquée. Puis les décors, c'était une de nos amies, Sylvie Quentin, qui nous proposait des décors. Sylvie, pour moi, c'est une grande artiste. Et en m'entend, elle va se dire « wow, 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 non, non ». C'est une grande artiste, puis on a eu la chance de l'avoir autour de nous, puis qu'elle nous offre de s'impliquer pour les décors. Puis l'autre grande artiste, à mon avis, c'est Louise Marois.
Oui.
De T-Bone, très grande graphiste. C'est une amie à Linda, puis c'est elle qui a fait le logo du bar, le Kiev. C'est elle qui faisait nos affiches pour les parties. On a eu des affiches extraordinaires. J'en ai encore quelques exemplaires. Puis après ça, elle, sa carrière a été fulgurante dans le milieu du graphisme. Fait qu'on a eu la chance d'avoir ces gens-là qui nous côtoyaient. Fait que c'est pour ça qu'on faisait tout nous autres. De planter le clou jusqu'à l'éviter, ça.
C'est beaucoup d'investissements et de collaborations.
Oui, on avait des bons DJ aussi. Bob Boulet, il était DJ aussi avec moi au Key Club.
Mais encore là, tu étais la seule femme DJ? Comme tu disais tantôt, il n'y a aucune DJ qui est allée te voir pour travailler au Kiev.
Jamais.
C'est incroyable quand même.
Malheureusement, jamais de filles DJ se sont présentées. Non, on a engagé des filles DJ, c'est certain. Je rêvais rien qu'à ça, mais il n'y avait pas.
C'est spécial quand même. Puis là, on est rendu en quelle année? C'est en 90, ça?
89-92.
Puis c'était situé sur la rue Rachel.
Oui, Rachel, c'était presque au coin de Saint-Hubert. En face de l'anecdote.
Le nom, vous l'avez choisi comment, le Kiev?
Le nom, comme je disais tantôt, quand on a décidé de partir notre bar, du moment où on a signé le bail, puis entre la date d'ouverture, on avait comme 3 semaines. Fait que ça, c'était très vite. Il n'y avait pas de piste de danse, il n'y avait pas de cabine de DJ, il n'y avait pas de vestiaire. On ouvrait en plein hiver, ça nous prenait un vestiaire. On a ouvert début décembre, puis on était pris dans une course contre la montre, aménager, engager notre personnel, s'occuper de la publicité. Parce que là, dans ce temps-là, t'envoyais des invitations par la poste. Hein? C'était pas tu payes 5 000 puis c'est partagé. C'était pas ça. Puis tu collectais les adresses des gens, puis faire faire une carte d'invitation, puis poster ça, adresser ça, poster ça. Puis il y avait une enseigne devant la façade. Il y avait un gros cas en néon, puis avec un autre espèce de néon demi-cercle qui passait devant. Là, ça faisait un peu comme une ville, là, tu sais. On se disait une ville illuminée. Puis là, on s'est dit, de toute façon, on n'aura pas le temps de changer l'enseigne à date pour l'ouverture, parce qu'avec les permis, la ville, puis tout ça, c'est long, tu sais. On n'aurait pas pu arriver, là. Fait que j'ai dit à Linda, il y a un beau cas en avant, là. On va trouver un nom qui commence par K. Puis je lui ai dit, on va ouvrir, puis après ça, on va s'investir sur notre enseigne. Fait qu'on se met à chercher des noms qui commencent par K. Mais on travaillait tellement, c'est 3 semaines qu'on travaillait jour et nuit. On a bien réalisé, c'est court comme laps de temps pour être prête. Puis on travaillait, puis on n'en trouvait pas de nom qui commence par K. Kiss, Kamikaze. Fait que à un moment donné, je me mets à regarder dans le dictionnaire les mots qui commencent par K. Je vais regarder les noms propres. Là, je tombe sur Kiev. J'ai accroché sur Kiev. Pourquoi j'ai accroché? Je trouvais que c'était original. Je trouvais que c'était un petit mot court. Puis il y a Eve dans le mot. Je pense que c'est ça qui est la seule référence, parce que Kiev, ça n'a aucun rapport avec les gays ou les lesbiennes. Puis là, j'ai proposé ça à Linda. J'ai dit, il n'y aura jamais un bar qui va s'appeler comme ça. Si on avait appelé ça, je sais pas, Kit ou Kit. Ouais. C'est juste ça. Il y a des gens qui ont cherché une signification. C'est qui, Ève? Non, on trouvait que c'était original, puis il y avait le mot Ève dedans.
Ça fitait, oui. Ouais, c'était parfait.
Ouais, ouais.
J'aimerais que tu nous présentes une autre chanson que tu as choisie, Catherine.
Oui, alors maintenant, on va écouter Lupo, Keep It Up. Ça vient d'Allemagne. Lupo, Keep It Up, 1990.
Nous sommes de retour avec Catherine Piché qui a défriché le trajet pour les femmes DJ. Il y a aussi eu plusieurs parties dans lesquelles tu étais DJ, que ce soit au Sky, party d'Halloween au Metropolis. Tu as aussi fait la musique en direct pendant le défilé international de mode féminine. Et vous avez créé, Charlie Boudreau et toi, la soirée Lesbo Monde qui se promenait dans les bars et dont le nom a été repris ensuite par Diversité. Quels souvenirs gardes-tu de ces soirées-là? Est-ce que c'était différent que d'avoir un set dans un bar fixe? De faire des soirées qui se promènent comme ça?
Oui, c'était très agréable. Ça se faisait pas ça dans le temps. Puis ça, c'est une idée de Charline. Ah, on va louer des places, on va se promener d'une place à l'autre. Puis ça a tellement bien marché. Puis encore là, les gens, ils venaient pour entendre la musique encore plus parce que c'était moi la DJ. Puis j'ai des très, très beaux souvenirs. J'ai un très, très bon souvenir aussi de partir d'Halloween au Métropolis. Ça avait été, une fois je fais des farces, je dis aux gens, j'ai fait le Métropolis. J'étais sur la scène du Métropolis, puis c'était plein. Puis ça a été une soirée, ça a dansé tout le long, ça s'est jamais vidé. C'était vraiment, vraiment bien. Puis défilé de mode, le Salon canadien international de mode féminine, c'était vraiment une belle expérience. D'avoir un DJ live pendant le défilé, ça se faisait pas non plus à ce moment-là. Après, ça s'est fait. Puis ça, c'est grâce à un client qui venait au beat. Eric Pierre Bergen venait jaser avec moi dans la cabine. Puis c'est grâce à lui que j'ai eu ce contrat-là de défilé de mode. Puis Eric Pierre Bergen, ben, c'est E.P. Bergen qui a fondé Brand Van 3000 plus tard.
Oui.
Et lui, son ami, c'était James DiSalvio. Puis déjà, ils se connaissaient, eux autres, puis ils faisaient déjà de la musique ensemble. James DiSalvio, ben, son père avait un bar sur Saint-Laurent. Il s'appelait Le DiSalvio. J'ai travaillé là. Fait que ça, c'est grâce à Eric Pierre puis James. Fait que ça, c'est des très beaux souvenirs. Ça, c'est en 1990, le défilé de mode. J'ai fait 2 années de suite. Fait que ça, c'est des beaux souvenirs aussi, parce que, comme tu dis, c'est différent de travailler dans un bar.
C'est ça.
C'est vraiment bien, ça. C'est vraiment bien.
Est-ce que tu voyais une différence? Est-ce que ta musique était différente dans les bars hétéros que dans les bars lesbiens?
Oui, mais je te dirais que c'était plus difficile de pousser des nouveautés dans les bars de filles. C'est plate à dire, là. J'aimerais te dire autrement, là, mais... Les filles, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de connaissances. Là, je veux pas offusquer personne. Je le sais qu'il y en a qui en ont. Mais je parle en général. T'allais dans les bars de gars, t'entendais des choses que jamais t'aurais entendu dans les bars de filles. Je trouvais qu'il n'y avait pas l'oreille assez développée. Puis moi, je voulais remédier à ça. T'sais.
Elle, probablement qu'elle voulait entendre des chansons qu'elle connaissait déjà. Puis toi, ta passion, c'était de faire découvrir des nouvelles chansons.
Ben, c'est ça. Fait que là, je faisais des petits compromis. Je leur mettais leurs petites chansons qu'ils aimaient. Mais là, après ça, ben, là, j'en glissais 2-3 de mon cru. Puis à un moment donné. Mais j'ai vu une différence au moment où j'ai commencé. Puis en dernier, là, dans les dernières places j'ai faites, comme au J-Spot, il y a des choses que je mettais au J-Spot que jamais j'aurais pu mettre avant. Je l'ai vu, l'évolution musicale. Je l'ai vu. Puis ça, c'est encourageant, tu sais. Ouais, je me faisais traiter de trop éveillé. Les filles, là, des fois, là, ah, t'es trop éveillé. Puis... Mais j'ai persisté, puis je pense que j'ai changé l'oreille à certaines personnes, là. Ouais.
Et on peut dire que t'avais du flair parce que en 93, t'écrivais un article sur le premier album de Björk, qui venait de sortir son tout premier disque, et tu as écrit, entre autres, quel serait le genre d'artiste qui marquera sa profession, ce qui s'est avéré tellement vrai.
Ouais, j'avais dit ça, oui, Björk. C'était particulier, la musique de Björk. C'est pas tout le monde là, qui pouvait, mais elle a eu un énorme succès. Puis c'est comme savoir quelle chanson qui va plaire ou qui va marcher. Fait que les artistes, oh, j'en ai prédit pas mal. Là. Ça, c'est parce que je l'ai écrit dans une revue, mais combien de fois je disais à mes amis, « Ah, ça, là, ce groupe-là » ou « Ah, oh, cette chanteuse-là, vous allez voir. » Puis maintenant, ils savent quand je dis quelque chose. C'est ça qui arrive pour la musique. Ouais. Je savais reconnaître les nouvelles tendances musicales.
Ouais.
C'est ça, vraiment.
À force d'être dedans, tu as développé ce don-là.
Oui, puis c'est drôle parce que quand j'ai travaillé dans une école primaire, après avoir travaillé au Collège de Montréal, évidemment, je faisais des danses, je faisais de l'animation, hein, on faisait des activités dehors avec de la musique. C'est moi qui mettais la musique. Puis j'avais toujours plein d'enfants autour de moi parce que ça les impressionnait de voir la console, puis ça les impressionnait de me voir faire ça, puis poser des questions. Puis, écoute, c'est l'école primaire, là, 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, puis ils voulaient partir. Puis ils m'amenaient des chansons dans leur téléphone. Puis à un moment donné, je leur dis, « Ah, je mets cette nouvelle chanson-là, là, vous allez voir, là, dans quelques semaines, là, tout le monde va l'adorer, tout le monde va la danser, tout le monde. » Là, ils m'ont regardé. Tu sais, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Ils m'ont regardé, puis là, ils ont dit, « Mais pourquoi tu dis ça? Comment tu fais pour savoir que... quand on marchait, c'est pourquoi elle, pas l'autre, tu sais? »
Ouais.
Puis là, ils m'ont comme bouché. J'ai dit, ben, je sais pas. J'ai dit, c'est comme un don. Je le sais, parce que je le sais. Puis ça.
On sait que le métier de DJ a beaucoup évolué depuis le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes DJ qui réussissent et à l'international aussi. Je pense entre autres à Mistress Barbara qui s'est promenée beaucoup à l'international. Est-ce que ça aurait été impensable dans ces années-là de faire une carrière internationale pour une femme DJ?
Ben, même pour les gars, à ce moment-là, ils n'avaient pas vraiment. C'était complètement un autre contexte. Puis même les DJ n'étaient pas reconnus comme aujourd'hui.
Ouais, c'était pas le même standing.
Non. Il n'y avait pas de... Le DJ était dans leur cabine. Il n'était pas mis à l'avant. Quelques années après, le DJ était quasiment mis dans le milieu de la piste de danse. Tu sais, c'était la vedette de la soirée. C'était pas comme ça de mon temps. Non, puis c'était encore là, les médias sociaux. Ils n'avaient pas. Fait que c'était plus difficile de se faire connaître. Puis, tu sais, écoute, les DJ, c'était rendu qu'ils faisaient des CD de compilation. Dans mon temps, on faisait pas ça. Il n'y a pas aucun DJ qui faisait des greatest hits de ses hits. Là, dans... Non, je pense pas que ça aurait été possible, même pas pour un gars. Moi, je faisais des cassettes. Moi, je me dis, si j'avais été là 10-15 ans plus tard, je n'aurais fait des compilations de CD, les chansons qui marchaient. J'en ai tellement fait des cassettes, là. Les gens venaient me voir. Oh, j'aimerais ça avoir telle chanson. Là, ben, je leur faisais une cassette. Je faisais des cassettes pour les restos, les cassettes pour les boutiques, pour mes amis, pour des clients. Ils venaient me voir. J'achetais trois bonnes cassettes, là, avec les belles tunes que tu mets. Puis, je faisais des cassettes. Puis je faisais des pochettes à mes cassettes, puis je vendais ça, j'en ai vendu. Mais je me dis, avoir été là 10-15 ans plus tard...
Le métier a beaucoup évolué quand même.
Ah, énormément, c'est complètement changé. Le DJ, il est mis en avant, c'est lui la vedette. Ils ont leur propre disque, une entreprise maintenant, être DJ.
On va poursuivre en musique. Qu'est-ce que tu as choisi pour nous?
Là, ce que j'ai choisi pour vous, c'est Raff, We Gonna Get. Puis ça, c'est italien. Ça a été produit en Angleterre. C'est encore un gros hit qui est RAF 1991 ou dans lequel.
Nous sommes de retour avec Catherine Piché. Est-ce que tu as des anecdotes reliées à ton métier que tu aimerais partager avec nous?
Oui, j'en ai une. Quand j'étais DJ au Beat, le gérant, c'était Pierre Vien. Il me dit, oh, j'ai des amis à Hall qui ont un bar. Puis, il aime ça inviter des DJ de l'extérieur. Fait que ça te tenterait-tu d'aller faire une soirée à Hall? T'sais, il aime ça avoir son conjoint à Montréal. Fait que j'ai OK. Fait que je m'en vais là à Hall. Le soir, on part en auto. J'étais avec Linda, puis deux amis. Puis, on passe une grosse tempête, là, une trop grosse tempête de neige verglas, tu sais, puis on s'en va à Hull, puis c'est glissant, ben Colin, on a un accident. On dérape, on se ramasse dans le fossé, on voit les arbres qui arrivent, ça arrête pas, puis là, j'ai dit, bon Dieu, c'est ma mort, tu sais. Puis on a arrêté juste avant les arbres, l'auto a comme été pris dans la neige. Je me rappelle même plus comment on s'était dépris de ça, j'en ai parlé à Linda, elle dit, on y repart. Avec l'auto. Ah, ouais, on est reparti avec l'auto. Je ne sais pas comment on a fait ça.
Wow.
Fait que d'une affaire à l'autre, on arrive en retard à Hull. Là. On arrive, c'est la glace partout. Tort les caisses de disques, c'est comme ça. Hein. On ne sort rien notre top. T'sais. On n'avait pas notre laptop. Là, t'sais, c'est, pas...
c'est de la job, pareil.
C'était fou. C'était physique, c'était mental. C'était... Fait que on sort les caisses de disques, puis ça a glace. Puis on se prend après l'auto, puis on marche sur le trottoir, puis les deux pieds, on fait le Bambi, puis on rentre dans le bar. Il est comme 10h30, 11h, le bar est plein. Puis ils attendent, eux autres, là. Ils attendent la DJ, là, tu sais. J'arrive, puis j'ai pas eu le temps de me familiariser avec la console, de regarder qu'est-ce qu'il y avait comme disque. Je suis arrivée, puis paf, l'autre tourne, c'est moi qui embarque. Puis j'ai même pas eu le temps de me dire, oh, j'ai peur, oh, je suis énervée, oh, je suis stressée. J'ai embarqué, puis... Ça a été un succès. Ça a marché. C'est comme si de rien n'était. Plus tard, dans le soir, on disait, ah, on a eu un accident d'auto, on s'en mêle. On était tellement... Les autres, c'est comme, il n'y avait rien qui avait paru. Ça, ça avait été assez mémorable, oui.
Tu as fait le métier de DJ pendant une quinzaine d'années?
Oui, oui, en gros, oui.
Aujourd'hui, Catherine, tu t'es redirigée vers quoi? Qu'est-ce que tu fais?
J'ai beaucoup travaillé dans les écoles. Là, dernièrement, je travaille chez un traiteur.
OK.
Je fais des clinaires, un gros traiteur de la région de la Naudière. Mais ce qui est spécial, c'est que partout où j'ai travaillé, c'est sûr que dans les écoles où j'ai travaillé, ben, j'ai fait des choses de musique. Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils comprennent pas. Quand je leur dis, ah, moi, j'ai été DJ... mon bar, mais j'en parle pas, là, vraiment, je me vante pas de rien là, en partant, là. Mais à mon travail, là, quand je leur ai dit, je vais avoir une émission, si vous voulez m'écouter, une émission sur quoi? Ben, j'ai ma carrière de DJ, puis là, il y a rien d'autre qui se dit, tu sais, ils me regardent, ta carrière de DJ, ouais, j'ai été une des premières femmes DJ à Montréal, j'ai eu mon propre bar, puis là, ils me regardent avec un air incrédule en me disant, qu'est-ce qu'elle dit là, elle?
Ils sont surpris.
Ils peuvent pas comprendre. Puis j'essaie de leur dire, ben, ah, oh, tu pourrais faire DJ dans un mariage? Ben, non, pas que je trouve qu'ils sont pas bons, mais puis je leur dis, c'est comme un autre niveau. Vous pouvez pas comprendre, c'est un autre niveau. C'est vraiment deux vies. Peut-être, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter l'émission et qui vont dire, ah, oh, ouais, hein. C'est ça, c'est qu'ils me croient pas, comme s'ils me croyaient pas.
Ah, mais c'est drôle, ça.
Ouais, ouais.
En terminant, est-ce que tu as des projets au niveau de la musique? Est-ce qu'un retour serait possible?
Ben, des projets pour la musique, ça, oui. On a un projet qu'on voudrait faire une soirée.
OK.
Ça fait plusieurs années qu'on s'en parle, Linda et moi. Une soirée du Kiev ou une soirée... J'ai dit à Linda, j'ai dit, on a parti un bar, j'ai dit, on doit être capable de faire des soirées, tu sais.
Une retrouvaille du Kiev, ça serait super.
Un retrouvaille du Kiev, parce que ça fait des années que les gens nous le demandent.
Ouais.
Puis, on a toujours voulu le faire, mais la vie étant ce qu'elle est, on a été pris dans toutes sortes d'affaires, là, nos parents, notre travail.
Mm-hmm.
Puis, on s'est toujours dit, quand on va le faire, on va avoir le temps de le faire pour bien le faire. Puis là, c'est un bon moment. Il faudra surveiller les annonces parce que oui, on va faire des soirées. Ouais.
Tu nous tiendras au courant, on va l'annoncer.
C'est sûr, on va faire le tour. On va peser sur un bouton puis on va partager. C'est donc bien le fun.
Merci beaucoup, Catherine Pichet, d'avoir été avec nous et au plaisir de t'entendre mixer dans des soirées prochainement. Et on va se laisser encore avec de la musique que tu as choisie.
On va écouter un groupe que j'aimais beaucoup. Je les aimais vraiment beaucoup. C'est le groupe Enjoy, la chanson Malfunction. C'était un groupe des États-Unis, un des rares, mais il était très, très bon. C'est sorti en 1991. Alors, enjoy.
Merci beaucoup, Catherine Pichet. À bientôt, j'espère.
Bien, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Je salue tous les gens qui nous ont aidés, qui ont contribué au Kiev, puis tous les gens qui m'ont encouragé dans tous les bars que j'ai faits. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à notre invitée, Catherine Pichet. On n'a pas eu le temps de jouer toute la musique qu'elle avait choisie pour nous, mais vous pourrez retrouver la playlist sur la publication Facebook, sur la page Les Beaux Sons 96.3 FM et en rattrapage sur notre page Mixcloud Les Beaux Sons. On se donne rendez-vous le 4 septembre à 19h et on se laisse avec Enjoy. Bonne fin de soirée.
bass kick. Let the bass kick. Thank you.